وسخ الحرب بالدم السين برا برا الحيطان حيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحيط الفوق السوارة برا برا الفت الحزمة بقى آمان برا برا نجم الفار دهك في الشمس برا برا ما بقى غير السعادة ولا أزهر برا برا ما بقى الجور سكتوا الطيور برا برا ما بقى ليلة نهار غير الدمار برا برا ربنا جعلنا نعمة حزين برا برا أكثر زمان ما بقى حرمة
Rachita en 2000, album produit par Stevie Ledge, Made in Medina. C'était pas mal quand même cette fusion moyen-orientale et des grosses guitares.
Esverzergut.
Stevie Ledge, c'était le guitariste de Gong à une période.
Et bah, dis, le lien que j'avais pas vu venir. Aujourd'hui, du kraut.
Du kraut rock.
Ouais.
Du rock choucroute.
Tu aimes ça?
La choucroute,
le kraut.
J'aime certains groupes de kraut. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a un groupe emblématique, c'est Can, qui est vraiment un groupe qui est très au-dessus du lot. Mais ça dépasse la question du style en soi. C'est un grand groupe tout court. Donc voilà. Après, il y a d'autres groupes très intéressants qui gravitent autour. Et puis c'est ce qu'on va essayer de découvrir au cours de l'émission. Une production très foisonnante sur une période de 6-7 ans. Parler de 150 disques par an sur une période dans ce style précis de krautrock, donc on peut imaginer que on ne connaît pas tout et qu'il y a sans doute des choses très bonnes et puis des choses un peu plus aventureuses.
Donc c'est vraiment sur une très courte période.
Sur une très courte période, la fin des années 70, c'était déjà très très sur le déclin. Peu de groupes ont pu continuer au-delà. On en citera quelques-uns. Voilà, Kraftwerk, Faust, qui ont pu continuer au-delà.
Parce que oui, Kraftwerk, avant de passer à l'électro, c'est un groupe expérimental kraut.
Voilà, tout à fait.
Premier choix.
Alors, découverte de cette musique. Un jour, en rendant visite à un copain, moi j'étais encore punk, donc la musique, les morceaux devaient durer 3 minutes 30, quand c'était des morceaux très très longs. Et ça devait être sauvage, et j'avais quand même quelques fans dans mes amis qui étaient plutôt branchés années 70, et j'arrive chez ce copain, et il y a ça qui démarre tout de suite. Je te laisse
appuyer. C'est vraiment une introduction. Là.
C'est une introduction. On ne va pas écouter l'intégralité du morceau, qui dure 18 minutes 32. C'est une des particularités du kraut. Ça fait aussi partie de la difficulté quand on veut préparer une émission sur ce thème-là. C'est que les morceaux sont souvent très longs. Et les morceaux longs sont souvent les meilleurs.
Mais là, à l'époque, tu es étudiant ou post-lycéen ou lycéen, qu'est-ce qui te frappe lorsque tu entends ça pour la première fois ?
Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est la rythmique. Quand on entend Cannes la première fois, voilà, le lien basse-batterie, c'est vraiment quand même le gros point fort de ce groupe. Et puis après, je veux dire, tu retrouves quand même quelque chose qui est inspiré du rock que tu écoutes, même quand t'es punk, etc. T'as des groupes comme Joy Division ou d'autres groupes comme ça qui sont pas sans être influencés par ce style-là. Ça, c'est une première chose. Donc tu fais le lien assez vite. Et puis derrière, ce qui est amusant, c'est que t'as une base rythmique assez puissante. Et puis que tu vois que les autres musiciens, le guitariste, le chanteur, s'amusent. Enfin, quelque part, ils sont assez libres sur cette base rythmique de créer des choses. Et donc, du coup, c'est une musique de liberté assez dingue. Et ça, c'est sympa.
Je t'écoute là et une question me vient à l'esprit. Et finalement, est-ce que tu aimes Parliament Funkadelic ? Parce qu'ils évoluaient également dans un univers avec une rythmique très forte et puis il y avait des instrumentistes qui partaient dans l'espace aussi.
La différence, c'est l'influence. Enfin, j'ai retenu là aujourd'hui, enfin, pour l'émission, quelques articles de journaux qui viennent de Françoise Massacre de Versus et de Francis Dordor des Inrock, qui décrivent un petit peu l'étymologie du kraut et le krautrock. Il a pas les mêmes bases. Il vient de musique un peu plus urbaine, un peu plus sale et une musique blanche, voilà. Et moi, j'étais plus dans cette logique-là en termes d'influence musicale. Funkadelic, on est sur des inspirations différentes.
Un premier titre avant un texte ?
Un premier titre, si tu veux, sauf si je lis rapidement la définition, l'histoire très rapide. Hein. Donc le terme krautrock, littéralement rock choucroute, apparaît pour la première fois en 1972 dans un article du magazine anglais Melody Maker, consacré au rock allemand, alors en pleine mutation et en pleine expansion. Ironie de l'histoire, c'est donc les Anglais qui inventent le terme krautrock pour qualifier ce rock allemand qui avait un autre nom. Voilà. Julian Cope, qui était fan de krautrock, qui a écrit une histoire du krautrock, dit que le krautrock, c'est une musique anglaise puisque c'est les Anglais qui ont inventé la définition.
L'autre nom, c'était quoi? Les Allemands l'appelaient comment?
Alors attends, l'autre nom, je l'ai quelque part, c'est... Je te dis ça après.
Oui. Hein,
je te dis ça après, il n'y a pas de problème. L'expression qui prend sa source dans le titre du groupe Amondul, donc le titre d'une chanson, Mamadul und ihre Sauerkraut Band, Mamandul et son orchestre choucroute, c'était le nom de la chanson. Paru en 1969, donc sera très vite récupéré par la critique musicale et la presse internationale pour désigner l'ensemble des tendances du rock allemand de l'époque. Donc on est quand même sur quelque chose de très ouvert, on n'est pas lié à un style, hein, on est sur une période plus que sur un vrai style. Il est généralement admis que l'âge d'or du krautrock s'étend grosso modo de 68 à 75. Sous cette bannière multidimensionnelle et bariolée, aux limites parfois floues, seront alors réunis des groupes tels que Cannes, Faust, Amondul 2, Cluster, Kraftwerk, Ashra Temple, Popol Vuh, Neu ou Tangerine Dream, qui, aussi différents soient-ils, donneront pourtant à la RFA, dans un élan commun et pour la première fois, une musique à l'identité spécifiquement teutonne, un son allemand. Un rock cosmique du paradoxe, avant-gardiste, anticonformiste, ouvert sur le monde, parfois visionnaire, à la fois unique et multiple, généreux, déglingué, méthodique et empirique, et ce, en l'espace d'une décennie. On balance Amondul pour commencer. We'll be right back.
komme zu Hauch und seh ihn euch an. Der Hauch neu geschoren und lächelt noch. Frisch ans Werk ist gleich getan. Hängt ihn auf den geilen Molloch.
Noter la piste est un peu moins forte que ce qu'on a l'habitude de lancer ici, donc je vous invite à jouer du potentiomètre chez vous pour relever les pistes. Amon Dul avec deux U, sein de tréma, tréma.
Et deux petits points sur le U. Oui,
oui, c'est tréma. Tréma. Voilà, Amon Dul's 2.
Dry.
Dry. Donc il y a.
Dry.
Pardon. Il y a donc eu un 1.
Il y a eu un 1, il y a eu un 0.
D'accord.
Nul.
En fait, Amon Dul, c'est plus une communauté. La communauté psychédélique. Donc, il y avait un groupe qui s'appelait Amon Dul. Scission de Amon Dul. Pour former donc deux entités distinctes. Amon Dul 1 et Amon Dul 2. Hein, ou Ein et Zwei. Pour parler en version originale.
Tout à fait.
Des groupes donc qui étaient sur un principe de free rock avec beaucoup de gerbes de nappes musicales. C'était complètement, enfin la musique est complètement liée au mode de vie hein, du groupe. Communauté, prise de drogue, enregistrement pendant des heures. Les musiciens, géométrie variable. Moi, je pourrais pas vous dire. Enfin. Sur chaque morceau, on a des musiciens différents, donc c'est voilà, on est proche du mouvement hippie ou quelque chose comme ça, en version allemande. Donc on retrouve ça dans la structure flottante des morceaux. On est proche aussi de l'acid rock californien hein, dans ces structures là. Comme le dit donc Francis Dordor, on est quand on parle d'Amon Dul sur une Californie sans soleil, un petit peu. Voilà.
Il fait beau en Allemagne des fois, ça m'est déjà arrivé de voir le soleil. Et d'ailleurs, j'ai une question, justement, parce que voilà, l'acid rock, genre, enfin, il y a des musiques qui sont attachées à des lieux géographiques. Bon, ok, donc hard rock, l'Allemagne, mais est-ce qu'il y a des lieux en Allemagne, est-ce que c'était vraiment,
Alors là, ça part dans tous les sens. Là, Amon Dul, c'est Munich, mais les groupes d'Hanovre, on est que dans l'Allemagne de l'Ouest. Je précise quand même.
Tu as dit RFA tout à l'heure.
RFA, donc.
Ce qui ne dit rien à nos plus jeunes auditeurs.
Et donc, ça ne concernait, mais ça partait toutes les villes, toutes les grandes villes, quand même. On était sur un phénomène urbain.
Je crois que Kraftwerk, c'est Düsseldorf.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Ouais, d'accord.
Ma seule connaissance.
C'était ma question, j'ai eu ma réponse.
Bon. Est-ce que c'est assez intéressant malgré tout de la réflexion de une Californie sans soleil, mais peut-être aussi un pays à terre, quoi. Enfin. De 45 à 60, c'est peut-être des gens, 70, c'est des gens qui ont connu une Allemagne un peu ravagée, qui a dû se relever.
Alors il y a ça.
Sûrement, oui.
Il y a la volonté ça, donc, peut-être de s'évader avec cette musique.
Oui, il y a quelque chose à réinventer en Allemagne à ce moment-là. Alors, on est dans un contexte où il y a beaucoup de bases militaires américaines, donc une grosse influence de musique américaine en Allemagne sur la période. Donc influence au début de jazz, etc. Avec des groupes allemands dans les années 60 qui imitent les groupes américains en fait, mais sans faire quelque chose de bien extraordinaire. On a connu ça aussi en France d'ailleurs. On reprenait les morceaux, on les chantait en version originale. Donc ça c'est le rock allemand des années 60. Ensuite il y a le phénomène psyché qui débarque. On a tous les groupes psyché qui vont influencer durablement la musique allemande. Enfin, en tout cas les jeunes allemands. Et puis surtout, le Velvet Underground, tous les journalistes et les historiens du rock constatent que c'est sans doute dans le Krautrock et en Allemagne que le Velvet Underground a eu son influence la plus décisive peu de temps après son existence, parce qu'après ça s'est retrouvé ailleurs. Et donc voilà, on a cette influence américaine, on a ce désir de se reconstruire, de construire quelque chose de nouveau. De se différencier aussi des aînés.
C'est des gens qui sont nés après la guerre. Voilà, c'est les premiers qui sont nés après la guerre, dont les parents, t'as fait quoi pendant la guerre, quoi. C'est ça aussi, je pense que c'est important. Parce que ça a aussi créé la bande à Bader et tout ça. Enfin, dans les années 70, tout ce mouvement, ça a été.
Plus l'influence de musiciens allemands, Stockhausen par exemple, avec sa musique électronique expérimentale, avec des bandes-son, des collages, etc. Ils ont été aussi influencés par ça.
Tu évoquais hors micro Pierre-Henri ?
Pierre-Henri, Stockhausen, toute cette musique, la musique sérielle avec
Boulez.
Il parle pas de Boulez, mais on est de toute façon dans la même vague musicale sur le moment. Ce qui nous ramène sur Cannes d'ailleurs, parce que les fondateurs de Cannes, Irmin Schmidt et Holger Csukai, ont été élèves de Stockhausen. Avant de former le groupe.
Csukai qui est décédé il y a un an à peu près, un peu moins d'un an.
Oui, ça commence à partir les membres de Cannes là, c'est un peu triste.
Il y a beaucoup de gens qui commencent à partir. Ça va pas s'arranger.
Donc on revient sur Cannes. Oui. Donc c'est le groupe, ça c'est Francis Dordor que je cite, qui fut le premier à se frayer une voie, qui non seulement s'écartait du modèle anglo-saxon, mais le devançait. Et d'une certaine façon, il se situe toujours à l'avant-garde. Quand on écoute Little Star of Bethlehem, le morceau qu'on va écouter maintenant, qui date de 1968, Francis Dordor pense que ça pourrait avoir été enregistré hier matin dans un loft de New York par LCD Sound System ou dans une cave de Manchester par les émules des Happy Mondays. Je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Road station.
conversation, don't you know? I need some.
De feu d'un croiseur et des flingues de concours.
Alors cette chose que je découvre, je trouve ça vraiment très chouette. Moi, ça me fait penser à Captain Beefheart. Cette voix un peu éraillée, d'ailleurs, on se faisait la réflexion en micro. Cet ami allemand chante très bien en anglais, d'ailleurs.
Tout à fait.
Très bel accent.
Alors après, je me demande si Sean Ryder de Happy Mondays sait qu'il a tout pompé à un mec allemand des années 60.
Peut-être.
Et est-ce que... Alors peut-être qu'il le sait.
Peut-être un homme de culture, Sean Ryder.
Tout à fait. Maintenant, s'il le sait pas, je vais pas lui dire en face. Sinon, je vais prendre un coup de boule.
Il est toujours vénère ?
Je sais. Bon, il est un peu diminué, je pense. Hein.
Ouais. Il est fatigué.
Aussi. Bon, on lui souhaite de pas nous quitter si vite.
Non, tout à fait.
Mais on n'est pas loin du par. Là, contrairement à Mondul, on n'est pas très loin d'une structure blues quand même.
On n'est pas très loin d'une structure blues, effectivement, avec quelque chose de un rythme comme ça, un peu lancinant, et puis voilà le chanteur qui raconte son histoire. Hein, il y a quelque chose
voilà,
de ça.
Le blues qui nous amène sur une transe avec la répétition.
Ouais, ouais.
Très bien.
Voilà. On avait parlé du nom allemand de cette musique, hein, puisque Krautrock,
ah oui,
c'est la dénomination anglaise. En fait, le nom allemand, c'est la cosmische Musik, la musique cosmique. Qui une définition qui lui va bien aussi d'ailleurs On est quand même un peu dans ce registre-là.
Alors je vais être pédant, mais on dit musique.
Musique.
Ouais, il n'y a pas de.
Je te crois sur parole, il n'y a pas de problème.
Encore gagner un petit camembert.
Un petit plaisir, en plus Guillaume n'est pas là pour parler anglais. Donc,
Je vous en prie.
On reste sur Francis Dordor, qui parle de cette musique, qui nous raconte, qui nous parle d'un autre groupe, Neu, hein, un autre groupe donc, de la scène Krautrock, qui nous dit à écouter Hero de l'album Neu 75, je ne sais pas le dire en allemand, excusez-moi, ou Super de l'album Neu 2 de 1973. Tout ça, c'est troublant comme du Sex Pistols avant l'heure. Il ne fait aucun doute que le punk est né en Allemagne, autant qu'à Londres ou Detroit. On peut balancer.
Ça me rappelle ma finlandaise. Tu la connais, mon histoire avec la finlandaise? Oui. Et ben toi qui la connais pas, tu vas te poêler. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui. Il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. Thank you.
dis-moi, nous sommes à la limite de l'incantation.
On est dans l'expérimentation. Là, on a écouté des choses un peu rock un petit peu avant, donc il fallait aussi couvrir le spectre large de cette musique, de cette cosmische music. Et donc là, c'est un petit duo, Cluster, voilà, sur un morceau de 1972, album Cluster 2.
Qu'est-ce que ça devait être en live?
Oui.
Oui, pour dire, tu as raté quand même Noy, oui, à Rouen ça, au printemps
ça,
dernier.
Ça devait sans doute être super.
Ah, et ça va regarder de la popie et puis. Hein.
Voilà.
T'as changé.
Cluster, c'est l'occasion de parler un petit peu de la façon dont ça, dont cette musique s'est structurée, puisque souvent derrière des mouvements musicaux, il y a des labels. Et en fait, le krautrock s'est structuré à partir d'une personne en fait au départ, un Hollandais. Les Anglais ont donné le nom de la musique. C'est un Hollandais qui s'appelait Rolf Ulrich Kaiser qui a structuré la scène dans un label qui s'appelait Or, qui veut dire oreille. Alors personne n'est là pour vous corriger mon accent, mais je ne sais pas si c'est
Madame
comme ça que ça se dit.
Parti, mais il te vilipendra
ultérieurement. J'accepterai ces corrections avec attention. Donc le label qui a structuré une partie de la scène, et peu de temps après, il y a deux professionnels, enfin de salariés de Or, qui ont décidé de quitter Or pour fonder un autre label, Brain. Et du coup, les deux labels se sont fait concurrence. Et c'est à partir de là que vraiment tout s'est accéléré. C'est là qu'on est passé au rythme de croisière de 150 albums par an entre Brain Records et Or Records.
Voilà. 150 albums par an.
Voilà. Donc là, c'était vraiment à foison. Bon, on était aussi sur une période où les groupes pouvaient sortir plusieurs albums par an. On a connu ça avec Bowie, dans des registres plus pop. Bon, là, c'était surtout quand on enregistre des improvisations, etc. Quand on a 75 heures de bande, on coupe et puis on fait un album.
Ils sont pas très embêtés visiblement par les paroles non plus.
Non plus. Je sais pas ce qu'ils prennent pour écrire leurs paroles, mais pas du vin d'Alsace. Hein.
On sait pas qui c'est ces gens-là. On sait pas trop dans quel coin ils se situent.
Donc ça c'est pour l'histoire, les faits, les labels. On va revenir sur Cannes et je vais reciter Francis Dordor.
Sur le Cannes qu'on a entendu tout à l'heure, il s'agissait du premier chanteur.
Il s'avère que Cannes, au cours d'une tournée, perd ce chanteur.
Il le perd.
Une fâcherie ou quelque chose comme ça. Ils doivent jouer le soir même, ils n'ont plus de chanteur et ils croisent un Japonais qui doit faire un numéro de cirque ou quelque chose d'équivalent dans la rue. Il le trouve cool et il lui propose de chanter le soir même dans le groupe. Et c'est Damo Suzuki.
Donc, il ne connaissait pas les paroles.
Mais en fait, c'est un chanteur intéressant, Damo Suzuki, dans le sens où c'est plutôt comme un guitariste d'improvisation, où il est dans un registre
d'incantation,
de paroles improvisées. Alors, évidemment, une fois que c'est figé sur un vinyle ou sur un CD, les paroles restent. Mais je ne suis pas sûr que chaque concert, il répétait la même chose. Hein. Voilà. Et il va porter une touche avec sa voix assez repérable de japonais, une touche vraiment très intéressante à cette musique.
Oui, parce qu'on a entendu des groupes où le chanteur s'exprimait en allemand, le premier Kan en anglais,
voilà,
et parfois Damo Suzuki en japonais.
En japonais, ou en anglais, ou en yaourt, ou que sais-je. Hein. Donc Francis Dordor parle de l'album Edge Bamiyazi, qui est à mon avis un des deux ou trois meilleurs de Kan, qui date de 1972. Il parle du morceau d'ouverture qui s'appelle Pinch. Et il dit que là, quand Cannes commence cet album, il ouvre une plus large perspective encore. Un morceau qui vous engloutit dans une coulée de lave, caractéristique du son Cannes, où viennent fusionner les restes du Velvet Underground, le Miles Davis de Beaches Brew, rompant avec les dernières connivences harmoniques, et les disques les plus hypnotiques de James Brown. À cela s'ajoute le son monochrome de Damo Suzuki et la guitare de Michael Caroli, dont les tourbillonnants effets rappellent là aussi les stridulations de l'acid rock californien, Grateful Dead, Quicksilver. Mais nous, on va pas écouter Pinch, parce que c'est un morceau très long, et qu'on essaye de donner un peu de rythme à l'émission. Et on va écouter Vitamine C du même album, qui est un morceau dans un registre un peu différent.
Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Daumesnil.
Bad times you gave me, I always said I would with you.
deux titres fort différents. Dis-moi, il y avait la petite ritournelle, enfin la somptueuse ritournelle de Cannes, vitamine C. Et puis là, je ne connais pas.
C'est une petite gaudriole en fait, Faust. En fait, c'est déjà un groupe un peu bizarre dans la conception parce qu'en fait, c'est un label, c'est Polydor, qui s'est intéressé à cette musique krautrock et qui s'est dit bah, on va construire un groupe. Parce qu'il faut qu'on ait du kraut sur notre label, donc ils ont fait un casting, ils ont construit leur groupe qui s'appelait Faust. Et il s'avère que Faust, malgré cette origine un peu douteuse, est devenu un groupe passionnant, très expérimental. Alors là, je vous ai mis une petite ritournelle, parce que dans leurs albums, qui sont parfois très très barrés dans l'expérimentation, ils glissent des petites virgules de chansonnettes un peu marrantes. Là ici, ça s'appelait The Sad Skinhead. Ça date de 1973 et ça vient de l'album Faust Fear. Et donc, voilà, j'ai une petite virgule qui est assez marrante pour égayer un peu la fin d'après-midi. Et Faust a continué. Si on a le temps, on écoutera un morceau d'un album de 2004 de Faust tout à l'heure. Et en fait, ils ont pris leur envol. Et c'était un groupe très intéressant. Donc voilà, oui. On est toujours en Allemagne, pas de problème. On a écouté Cluster là tout à l'heure, qui était sur le versant électronique un peu expérimental. Il y a un autre groupe donc de la scène kraut qui était vraiment sur ce versant-là, encore plus électronique, c'était Kraftwerk, que beaucoup de monde connaît sur le versant musique électronique avec des chansons comme Radioactivity, etc., qui sont devenues des tubes mondiaux. Mais avec toujours quand même un aspect musique expérimentale électronique sous influence Stockhausen, Pierre-Henry, etc. Très intéressante.
C'est un groupe effectivement qui n'était pas si évident que ça. Ils ont fait des succès qui, Tour de France, ils en ont vendu des stocks. Oh, même maintenant, je trouve ça un peu ardu à écouter, quoi.
Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Tu te dis que les gens avaient quand même des oreilles très, très ouvertes à l'époque.
Curieuses, ouais.
Hein, parce que bon, t'avais un morceau un peu poppy dans l'album pour t'accrocher, mais le reste, on est quand même dans l'expérimental.
Autobahn également.
Voilà, Autobahn complètement. Donc là, j'ai choisi un extrait de l'album Radioactivity 75. Donc, ils étaient déjà en train de se détacher de la partie expérimentale et krautrock. Mais enfin,
donc là,
vous allez voir.
Ils jouent plus que du clavier et puis ils insèrent des boucles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Ouais.
C'est un groupe qui a commencé par un duo, en fait, et qui s'est un peu cherché vraiment dans l'expérimental avec des choses qui étaient sans mélodie, rien du tout. Et puis après, quand c'est devenu un quatuor, là, ça a vraiment pris son envol et la musique s'est développée au fur et à mesure. Donc on écoute de cet album Radioactivity le morceau qui s'appelle Airwaves.
Thank you.
C'est le générique de Temps X.
Quasiment.
Oh, ça se finit de façon dure. Ah, je me suis trompé encore de tranche.
Ce que tu dis est très juste. En fait, il paraît que Kraftwerk est le groupe le plus samplé du monde.
D'accord. D'accord, oui. Alors, James Brown, l'artiste, et Kraftwerk, le groupe.
Ah, là.
Non, mais c'est une ritournelle implacable aussi, là, avec une boucle qui tourne sans arrêt. Mais on en parlait en micro. C'est vrai que fin 70, début 80, à la télé, la musique avait le droit de citer.
Y compris ce genre de musique.
Et voilà. Et ces gens-là étaient assez fascinants, quoi. Faire semblant. On comprenait bien que ce n'étaient pas des robots. Mais il y avait un spectacle visuel dans quasiment le non-spectacle, puisqu'ils ne bougeaient quasiment pas.
Ouais, c'est sans être attiré ni en connaissant cette musique, on était tout de suite impressionné par leur côté quatre personnes quasi identiques. Habillé par, enfin voilà, on a vu le look, chemise rouge, cravate noire, effectivement posture de robot, c'était fascinant. Et puis derrière, la musique amenait de l'étrangeté supplémentaire. Donc, je m'intéressais pas encore à la musique, mais à chaque fois qu'on tombait sur ce genre de choses, on était captivé quand même.
Absolument. Le temps file, mon ami.
Alors allons-y, on enchaîne. On va parler d'un autre groupe, donc de cette scène krautrock, Ashra Temple.
Le nom fait peur.
Le nom fait peur, mais faut pas. Alors, effectivement, qui a fait des choses très très variées. C'était un groupe qui était sur le label Brain Records, le concurrent de Or. On est sur un album de 1973 qui s'appelle Staring Rosie. Et comme son nom l'indique, eh bien, la dénommée Rosie est la chanteuse sur cet album uniquement. Voilà. Et tu vas voir, ou tu vas entendre, qu'on est sur un registre encore très différent de ce qu'on a pu écouter depuis le début de l'émission.
Je t'en prie.
Alors c'est moi qui lance, effectivement. C'est parti.
In the world. But nobody will tell me. No one seems to know.
Nous sommes plutôt dans l'ambiance détendue,
bucolique.
Non, c'était pas très fort, mais c'était vachement bien. Ashra Temple.
Ashra Temple, hein, très atypique du reste de la musique d'Ashra Temple quand même. Hein, donc bon.
Non, mais chouette, hein, vraiment. Hein.
Alors, pour terminer l'émission, en tout cas sur la partie qui m'incombe, avant de te laisser la main sur le poussiéreux de la semaine, c'est ça ?
Qui me décombe.
Qui te décombe. Je voulais évoquer, même si j'en ai parlé à demi-mot tout à l'heure, les groupes qui ont continué à exister bien au-delà de 1975. Faust en fait partie. Et donc Faust nous a sorti des albums jusqu'à une période récente. Là, j'ai un album de 2004 dont le nom est Rien. Et d'ailleurs, sur la pochette... que je peux te montrer.
Nos auditeurs apprécient.
C'est ça ressemble à de l'aluminium. Hein.
Ouais, un livret en aluminium sur lequel il n'y a absolument rien.
Rien, voilà. Donc c'est tout le charme, le CD est à l'avenant. Ils ont continué à faire de la musique. Tout à l'heure, on a écouté une petite ritournelle de Faust. Là, on va aller dans le versant un peu plus expérimental quand même, puisqu'il faut découvrir cette facette-là. Je vous laisse écouter ça, et puis ensuite, je te laisse la main.
Fort belle mission bien accomplie.
C'est rien de Faust.
Yeah. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard?
Dis-moi, ce titre s'est conclu de façon un petit peu abrupte. On est lorsqu'on va dans la Bible de la musique, qui s'appelle allmusic.com, c'est vraiment une sorte de Bible musicale. Il y a un onglet qui est Relate. Et dedans, il y a les influences, les gens de la même époque, et puis les followers. Quels sont donc les suiveurs de cette musique kraut?
Alors, il y a quand même une période d'oubli du krautrock, enfin, quelque part, même s'il y a des influences.
Des successeurs, peut-être.
Des successeurs, voilà. C'est quand même une musique qui a été redéterrée ou redécouverte au milieu des années 90. En tant que telle. En revanche, elle a influencé des groupes très importants. Toute l'avant-garde de post-punk et new wave, Peel, ce pop group, Père Ubu, This It, Siouxsie, Wire, les Buzzcocks, Mark Bell. Voilà, c'est sous influence assez directe du kraut. On retrouve aussi d'autres groupes plus quasiment de la musique industrielle. Le morceau de Faust qu'on a écouté à l'instant, on est dans cette ligne-là. Nurse with Wound, Einstürzen de Neubauten, sont nés aussi sur les cendres du kraut. Hein. Donc des groupes voilà qu'on a écoutés et qu'on a aimés en plus. Donc découvrir le kraut, c'était aussi découvrir les influences de groupes qu'on avait adorés à notre adolescence.
Absolument. Mais ce qui est chouette d'ailleurs, enfin, quand on était plus jeune et sans doute un petit peu plus curieux, j'aimais beaucoup moi lire les interviews de telle personnalité, pardon, tel artiste qui disait ah ouais mais moi je fais ce type de musique là parce que j'ai écouté quelque chose de radicalement différent ou que j'ai assimilé ou que j'ai recraché quoi.
C'était le grand plaisir des interviews quand on était jeune, c'était de dire bah oui, on écoutait l'interview du guitariste de tel groupe et puis il disait ouais, j'ai écouté ci, j'ai écouté ça et on avait envie de se précipiter sur les groupes. Parfois pour des surprises pas toujours agréables parce qu'on n'était pas toujours prêt à accéder, on en parlait hors antenne, aux Birds ou à Love ou que sais-je.
Oui, on évoquait l'importance des Birds. On aura une émission bientôt un petit peu là-dessus. Et je disais que ouais, les Birds Love étaient l'influence majeure des Cones, The Bunnymen, des Laz, des Pale Fountains, toute la scène de Liverpool du milieu, fin des années 80.
Voilà. Influence aussi majeure du krautrock dans les années 90, dans ce qu'on a appelé le post-rock. Et dans certains groupes pop de l'époque, Stereolab, Tortoise, Borbomb, Smokes on Mars, Spaceman 3, Spiritualize, Pram, Moonshake d'ailleurs, un groupe que moi j'adore. Doit son nom à une chanson de Cannes.
D'accord. Alors moi j'aime beaucoup Spiritualize. Allez, la suite tout de suite.
Hello.
I just got your message.
Tiens. Je suis là pour vous dire.
C'est de la merde.
Ça en tête. L'amitié, il faut surtout relire les textes sur
la merde, de la merde.
Merde, c'est vraiment la plus grande merde des merdes.
Ouais, this is it pendant que le fer fait le ménage. Aujourd'hui, les deux poussiéreux de la semaine, l'un paraît presque obligatoire, il date de 1985, sorti sur le label Beggar's Banquet. C'est évidemment This Nation's Saving Grace de The Fall. On disait tout à l'heure, on ne sait pas si Shaun Ryder connaissait Cannes et les chanteurs de Cannes. En tout cas, notre atrabilaire préféré, Marky Smith, connaissait très très bien. Très très bien, lui, Damo Suzuki.
Un mec légendaire, quoi. Les gens de sa partie l'appellent le Dab et enlèvent leur chapeau rien qu'en entendant son blaze. Une épée, quoi.
Yeah.
C'est du brutal.
Thank you.
Je vous demande de vous arrêter.
Oh, Edouard, arrête. Arrête, Edouard. Non que tu m'aies maltraité, mais un petit portichet, c'est bien, non?
Ouais, ouais, c'est un peu violent, mais ça passe, finalement.
1994, l'album Dummy, sorti sur le label Go Beat, groupe de Bristol, qui a marqué donc le trip-hop. Oh, c'est marrant, il y a 15 jours, on avait fait J.J. Johnson. Donc, du coup, toi, tu as vu J.J. Johnson et Portichet.
Oui, le même jour. Ou un jour, le lendemain, voilà, à la route du rock.
Un jour, le lendemain, très belle expression.
C'est avec PJ Harvey, le même soir.
Heureux homme.
Ouais,
heureux
c'était
homme.
Sympa.
Heureux homme. D'ailleurs, vas-tu toujours voir quelques menus concerts?
Quelques concerts, oui, mais quand même un peu moins. Petit souci d'acouphènes ou de choses comme ça. Enfin, il faut devenir un peu raisonnable.
Ah, j'ai la chance de toujours avoir de bonnes feuilles. Au moins ça, j'ai au moins ça. C'est toujours un immense plaisir que te recevoir en début de saison. Tu nous lances quelque part.
Plaisir partagé.
Tu es notre starting block. Eh bien, voilà, la saison est pleinement lancée, puisque la semaine prochaine, eh bien, on se retrouvera ici avec Yo-Yo Man, qui viendra nous parler de Kid Congo Power. Kid Congo Power, ça te fait penser à quoi?
Ah ouais, ça me fait penser à des groupes majeurs de l'histoire du rock underground. Nick Cave and the Bad Seeds, le Gun Club, la carrière solo de Kid Congo aussi.
Et
les Cramps, voilà. Voilà. Donc, que dire de mieux?
Eh bien, il viendra nous le dire à la radio, Yo-Yo Man.
J'ai vu le Gun Club.
Pareil.
À l'Exocet.
Ah, je l'ai vu à l'abordage.
Ah, d'accord. Accompagné par Kid Congo.
Ah, très bien. Non, moi, j'ai vu, c'était sur la fin du Gun Club où le pauvre Jeff Holly Pierce était quand même sacrément bouffi. Mais ça, c'est quand même un concert magique, quoi. Concert magique. Merci. Merci encore. On va trouver le loisir d'enregistrer des. Un ou deux canards siffleurs mexicains, que tu viennes nous parler d'Allemands ou d'Autrichiens qui torturent, quand
avec,
même.
Avec plaisir.
Hein, quand même. Allez, restez branchés sur Principe Actif dans 29 minutes et 4 secondes maintenant. Eldorado, émission lettrée, mais et fort intéressante. Portez-vous bien, à très bientôt. Ah ouais, non, pardon, non. Rétro-pédalage. Je me suis emporté. Vous retrouverez les émissions Amis du Privé à commencer demain par le Gordon Show de 14 à 15h. 15h30, 16h30, Collateral Damage. Le Canard Siffleur Mexicain dimanche, 12h30, 13h avec une spéciale Robert Altman. Quand même. Lundi, 19h, 20h, l'Alchimix. Mardi, à 20h, 21h30, le Laboratoire, suivi par Vénus in Onde. Et puis, mercredi prochain, Lorenzo, avec Tour de Piste. Et puis, jeudi, peut-être Pick-up, sans doute. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, portez-vous bien sur les antennes de Principe Actif. Ciao.
Salut. Salut.
Arrête tes conneries. Bon, ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est foutu. Préviens les flics, moi, je vais me coucher.
Chers tous, il est temps de prendre congé. Où que vous portiez vos pas, faites pas de dégâts. Rentrez chez vous, rentrez pas, mais restez pas en tout cas. En attendant...
Mouvement.
Hit him up.
Hit him up.
Mouvement.
Mouvement.
Hit him up.
Raw hard. Cut him out.
Ride him in.
Ride him in.
Cut him out.
Cut him out. Ride him in raw hard.
Allez les gars, foutons le camp.